Bien, ça ne vous aura pas échappé. Hein. Israël est en guerre contre l'Iran, en tout cas contre le programme nucléaire de l'Iran. Et les États-Unis ont mis fin au suspense, en définitive, hier matin, vers 4 heures du matin, heure belge, en faisant exploser les sites nucléaires d'Ispahan, de Natanz et bien sûr de Fordow. Eh bien, avec Daniel Haber, on évoque le rôle du Mossad dans la guerre menée par Israël contre l'Iran, justement. Le voici, Daniel Haber, au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin, comme tous les matins, sur Radio Judaïka pour nos traditionnelles conversations. Alors Daniel, on a vu hein, ce week-end, Donald Trump a rallié les frappes israéliennes touchant l'Iran, des frappes qui ont commencé le 13 juin dernier. Et depuis le début de cette guerre face à l'Iran, il y a une organisation israélienne qui est apparue comme un levier décisif, c'est le Mossad. Parlons du rôle du Mossad ensemble, Daniel.
Oui, cette action a été décisive dans le succès du 13 juin. Ils ont décapité, en même temps qu'ils bombardaient les sites nucléaires, ils ont décapité la machine iranienne de pouvoir. Pouvoir de faire la guerre, pouvoir de développer le programme nucléaire. Et donc tout ça a facilité le reste. Donc c'était une sorte de préalable. Et puisqu'on parle de préalable, rappelons qu'avant le 13 juin, il y a eu beaucoup d'actions du Mossad dont on a déjà parlé et qui ont conduit, après le 7 octobre, à rétablir la situation d'Israël, qui a été très mise à mal le 7 octobre, comme on l'a dit plusieurs fois à la conversation. Israël a mis un genou à terre, il fallait se relever, et le Mossad a participé à ce relèvement. En particulier, bon, le plus spectaculaire, c'était l'explosion des 1000 ou 2000 pagers des membres du Hezbollah, et ça a contribué à complètement briser le Hezbollah, qui aujourd'hui, de lui-même, dit « je n'interviens pas ». Le principal levier de défense de l'Iran, celui sur lequel l'Iran comptait pour ne pas être attaqué, avait été décapité avant, et ça c'était vraiment l'action du Mossad. Et je rappelle les éliminations ciblées des généraux de l'unité Al-Quds qui ont été tués à Damas, la mort d'Haniyeh à Téhéran et la mort de Nasrallah à Beyrouth. Donc, dans ce rétablissement de crédité, donc le Mossad a joué un rôle tout à fait majeur.
Oui, justement, ce rôle majeur, on en parle. C'est donc ce rôle du Mossad. Quel est-il? Parlons-en. Il y a toute une activité autour de cette organisation.
Oui, c'est très large. Et alors, vous savez, c'est comme toujours, c'est comme on ne sait pas tout, on fantasme. Et en fait, avec le recul, je constate que les services secrets des grands pays sont devenus des vedettes. On parle tout le temps de la CIA, du KGB ou aujourd'hui du SFB, on parle de la DHSE, de DGSE française, on parle du M16 britannique, et au fond, on parle beaucoup de services secrets, donc c'est très paradoxal, et comme au fond on en parle sans savoir ce qu'ils font, il y a beaucoup de fantasmes. Alors quelle est la réalité, puisque c'est ça le sens de votre question? Écoutez, dans l'idée principale, c'est au fond obtenir du renseignement sur nos ennemis. C'est ça l'idée, pour au fond avoir des renseignements, anticiper le plus possible. Hein. Il faut prévoir, il faut anticiper ce que vont faire nos ennemis. Et c'est vrai que le mot infiltration, dont on a entendu beaucoup parler, c'est la clé de tout. Il faut infiltrer en amont chez nos ennemis, il faut aller s'infiltrer chez nos ennemis pour essayer de savoir avant toute chose, ce qu'ils sont en train de préparer. Et donc, ça c'est le but général de tous les services secrets, en fait. Alors, pour Israël, c'est encore plus important pour tous les autres pays, parce que chaque attaque d'un ennemi sur Israël, c'est la survie d'Israël qui est en jeu. C'est pas vrai pour les autres pays. Les autres pays peuvent perdre des batailles, peuvent perdre des guerres. Ils sont toujours là. Par contre, Israël ne peut pas se permettre de perdre une guerre parce qu'il ne sera plus là en tant qu'État-nation. Donc, vous voyez la pression qui est mise sur le Mossad. Il faut que donc, le Mossad soit meilleur que tous les autres, et de l'avis des autres, d'ailleurs, services secrets, il est effectivement le meilleur. Et donc, l'idée générale, c'est l'anticipation, anticiper 6 millions de Juifs face à 400 millions de musulmans qui ne les aiment pas. Seule l'intelligence peut permettre de les vaincre. Et alors d'abord, il faut bien définir l'ennemi. Et l'ennemi d'Israël, qui est d'ailleurs le même que celui de l'Occident, c'est l'islam, c'est l'islamisme plutôt. L'islamisme radical avec sa version terrorisme, ce qu'on appelle le djihadisme. Or, depuis que l'Iran a fait sa révolution islamique il y a 46 ans, c'est le retour de toutes les menaces d'Israël sont autour de l'islam, de l'islamiste organisé, orchestré par l'Iran. C'est tout le fameux axe de la malédiction, le Hamas, les 3 H, les 3 M, etc., dont on a beaucoup parlé. Et donc, très vite, dès 79, l'Israël a mis en place des systèmes pour surveiller le plus possible ses ennemis. On se souvient du fameux espion Eli Cohen à Damas. Et là, on voit qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'Eli Cohen à Téhéran. C'est ça qui frappe. Mais tout ça nous ramène toujours au fond à ce thème de l'infiltration, hein, et à l'anticipation des actions du Hamas. Maintenant, si vous me posez la question de au-delà de tout ça, est-ce que le Mossad israélien fait d'autres choses? Oui. En fait, l'infiltration n'est que la condition du départ, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et justement, je voudrais, pour essayer de répondre à la question de la diversité des actions du Hamas, vous parler d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Révélation du Mossad, et qui, pour la première fois, je crois, n'a pas été écrit par un journaliste extérieur au Mossad, mais par quelqu'un qui a fait toute sa carrière au Mossad, qui est toujours vivant, qui s'appelle Areleh Scherf. Son livre est sorti en hébreu il y a quelques semaines, et il va paraître, ou il est en train de paraître, en France, en français, sous le titre Révélation du Mossad. L'auteur, c'est Areleh Scherf, l'éditeur, c'est L'Harmattan. Et on peut déjà, je crois, le précommander sur Amazon. Et Areleh Scherf a passé beaucoup de temps à Bruxelles dans son action. Donc, si vous, à Radio Judaïka, vous arrivez à, et je vais vous aider à l'avoir au bout du fil, ça peut faire l'objet d'une émission intéressante pour nos auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans son livre? Il parle de nombreuses missions qu'il a faites, et on s'aperçoit que ces missions, si on essayait de les organiser, on dirait que premièrement, de l'infiltration, on est passé à l'exfiltration, parce qu'il raconte beaucoup, parce qu'il y a participé, la fuite ou la libération des Juifs d'Éthiopie. C'est quand même une des plus grandes opérations du Mossad, transporter, ramener de l'Éthiopie à pied des milliers de Juifs éthiopiens au Soudan, secrètement, les laisser dans des camps en attendant que des avions ou des bateaux viennent les chercher et les exfiltrer du Soudan pour les ramener en Israël. Ça a duré une dizaine d'années. Et Aaron Scherf, Areleh Scherf a été à la tête de beaucoup de ces opérations. Ça, c'est une des grandes. Vous voyez, on est loin de l'Iran et on est loin des frappes. Et puis, plus fondamentalement, et ça, il en parle beaucoup parce qu'il a été beaucoup en charge de ça, c'est toute cette diplomatie secrète. Et là, je rappelle que chaque fois que vous entendez parler de négociations avec le Hamas, de négociations avec le Hezbollah pour les cessez-le-feu, quand on reparlera des négociations avec l'Iran ou avec d'autres, on s'aperçoit qu'il y a toujours quelqu'un du Mossad qui participe à ces négociations à côté des diplomates, souvent d'ailleurs le patron même du Mossad, d'ailleurs dont plus en plus on connaît le nom. Hein, aujourd'hui, le patron du Mossad s'appelle David Barnea. Avant, il y en a eu d'autres, et beaucoup de ces patrons du Mossad ont été les élèves de Areleh Scherf, qui a publié ce livre. Donc, c'est un homme qui a toute l'histoire du Mossad derrière lui. Et donc, on voit que cette diplomatie secrète a consisté surtout à garder des liens entre Israël et la plupart des pays qui avaient rompu les liens officiels avec Israël, notamment après la guerre de 1973, la guerre du Kippour. La Ligue arabe avait ordonné à tous les pays musulmans ou qui ne veulent pas être sanctionnés par les pays musulmans, ils avaient même fait des menaces, de rompre avec Israël. Alors, pratiquement tous les pays d'Afrique ont rompu, l'Indonésie avait rompu. Vous voyez, et donc, tout le jeu du Mossad a été de garder des liens secrets, avec des actions tout à fait intéressantes qu'il raconte. Et donc tout ça fait partie d'autres choses encore que cette guerre contre l'Iran. Et donc j'encourage nos lecteurs à se procurer ce livre qui est absolument passionnant, qui se livre comme c'est un livre d'histoire moderne. Voilà.
Pour conclure, Daniel, en une petite minute, est-ce possible de résumer le rôle du Mossad?
Oui, je m'attendais à votre question. Vous savez, on parle souvent d'Israël comme la start-up nation, c'est-à-dire un pays qui est capable de créativité mieux que les autres parce qu'il n'a pas le choix. Eh bien, je dirais que le Mossad, par rapport à tous les autres services secrets, est condamné à une créativité permanente. Donc, si je devais définir le Mossad, je dirais que c'est un centre de créativité qui fait partie de tout cet écosystème d'Israël qui est la start-up nation, l'innovation permanente, la créativité permanente, l'intelligence avant l'action, la réflexion avant l'action. Et d'ailleurs, beaucoup des membres qui sont recrutés maintenant par le Mossad, qui s'est beaucoup évidemment organisé sur le plan technologique, qui utilise tous les outils de la cybernétique, de l'intelligence artificielle, viennent de ce cœur de l'intelligence informatique d'Israël qui s'appelle l'unité 8200 de l'armée de Tsahal, où on réunit pendant leur service militaire toutes les grosses têtes d'Israël, hein, et ils y travaillent souvent pendant leur service militaire et quelques années après. Et quand ils sortent de là, bah, c'est eux qui montent les start-up israéliennes, tout dont on entend parler, mais certains vont au Mossad. Et donc voilà, et ce lien entre la créativité générale d'Israël et la créativité spécifique du Mossad, c'est celui que je peux mettre en avant grâce à votre question.
Daniel Aber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.